À la une de ce journal, le président Raïssi arrive à Moscou pour une visite officielle de 2 jours. PGAC, action sérieuse des négociateurs au 8e tour pour parvenir à un accord. Et puis les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre 3 personnes accusées de lien avec le Hezbollah. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien est arrivé à Moscou ce mercredi à la tête d'une délégation de haut niveau et a été accueilli mercredi par des responsables russes et des diplomates iraniens à l'aéroport de Vnukovo. Le président Raïssi, qui a quitté Téhéran pour Moscou mercredi matin pour un voyage officiel de 2 jours, a été accueilli à l'aéroport de Moscou-Vnukovo par le ministre russe de l'énergie et le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Avant son départ, le président Raïssi a estimé qu'une coopération plus étroite profiterait à 2 pays. Il a affirmé que des liens plus solides entre les 2 États contribueraient également à la sécurité, à l'économie et aux liens commerciaux dans la région et serviraient de dissuasion à l'unilatéralisme mondial. Le président Raïssi sera accompagné lors de ce voyage de 2 jours par Hossein Amir Abdollahian, Javad Oji et Ehsan Khandouzi, ministre iranien des Affaires étrangères, du pétrole et des affaires économiques et des finances respectivement. Et il s'agit de la 3e visite à l'étranger du président Raïssi depuis sa prise de fonction en juillet. L'ayatollah Raïssi s'est déjà rendu au Tadjikistan et au Turkménistan conformément à l'approche du 13e gouvernement visant à maximiser les liens avec les voisins et les pays de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Moscou partagent une vision stratégique des relations étrangères et que cela sert de pivot dans une nouvelle tentative de réorganiser leurs relations. Hossein Amir Abdollahian affirme qu'il existe divers sujets stratégiques qui régissent les relations entre les 2 parties. Selon le ministre, le cas de la Syrie est un modèle réussi de la coopération régionale des 2 pays. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que les secteurs publics et privés en Iran et en Russie étaient disposés à augmenter le niveau du commerce annuel, en particulier dans le contexte des sanctions américaines visant les 2 pays. Amir Abdollahian a ajouté que Téhéran et Moscou travailleraient ensemble pour compenser les effets des sanctions. Les négociations sur la levée des sanctions se poursuivent à Vienne, alors que les négociateurs de l'Iran, des 4+1 et des États-Unis tiennent des réunions intensives pour travailler sur les 4 questions principales. Le négociateur en chef iranien est parti lundi matin pour Vienne afin de reprendre ses pourparlers. En l'absence de Borrelli à Vienne, les négociations entre les représentants de l'Iran et le groupe 4+1 se sont poursuivies au niveau des experts. Borrelli est rentré vendredi à Téhéran pour des réunions de coordination et de consultation avec tous les responsables techniques et spécialisés concernés en amont sous la forme d'un programme lourd et intensif. Les pourparlers ont commencé lundi par des réunions bilatérales et trilatérales entre les négociateurs de notre pays et Henrique Mora, le représentant de l'Union européenne, et les négociateurs principaux des 3 pays européens à l'hôtel Kobur à Vienne. Le représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que malgré les sanctions américaines qui violent le droit international, les droits fondamentaux des femmes et des filles, en particulier leur droit au développement, l'Iran avait fait des progrès significatifs dans l'autonomisation des femmes et des filles. Majid Tartravanchi s'est adressé à une réunion du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité mardi, hors local, évoquant le rôle des femmes dans la vie sociale, l'évolution économique et de la vie dans les situations de conflit. Malheureusement, nous continuons à voir les effets destructeurs de l'occupation et de l'intervention étrangère, ainsi que les activités terroristes ciblant les femmes et les filles, a déploré le représentant d'Iran aux Nations Unies en évoquant la situation des femmes en Asie occidentale. Autre thème, l'Iran affirme que le blocus et les bombardements saoudiens ne sont pas la solution à la crise au Yémen et qu'ils ne feront qu'aggraver les tensions dans la région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que l'Iran soutenait constamment une initiative visant à parvenir à un règlement politique pour mettre fin à la crise au Yémen. Khatibzadeh a noté que l'Iran soutient toute solution garantissant l'intégralité territoriale du Yémen et prévenant l'escalade de la catastrophe humanitaire dans ce pays. Le diplomate a également souligné que la République islamique d'Iran est prête à aider à toute initiative qui conduirait à la fin de la guerre de 7 ans menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Enfin, le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions contre 3 personnes qui, selon lui, ont des liens avec le Hezbollah. Washington accuse les hommes d'affaires d'avoir aidé le mouvement de résistance libanais à accéder à des fonds par le biais de leur entreprise de tourisme. Les États-Unis ont désigné le Hezbollah comme groupe terroriste étranger. Ils ont depuis ciblé de nombreux membres du Hezbollah avec des restrictions malgré un large soutien populaire au groupe à l'intérieur du Liban. En dépit de l'opposition américaine au mouvement, le Hezbollah est désormais une force politique majeure au Liban et certains de ses membres ont été élus au Parlement du pays. Le mouvement a répété à plusieurs reprises que les États-Unis ne pourraient pas nuire à la résistance en lui imposant des sanctions. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Opération contre les Émirats. Panique à Tel Aviv. Mardi 18 janvier, à peine quelques heures après que la moitié des Émirats arabes unis eut tremblé sous les coups de l'une des opérations balistiques hybrides les plus complexes du siècle, nouvelle opération étendue sur plusieurs heures et impliquant un réseau synchrone de 20 drones de type Sama 3, de 2 missiles de croisière Rutz 2 et de 3 engins balistiques tactiques à tête détachable Zulfaror, partis tous et simultanément du territoire yéménite pour atteindre sans accroc et au bout d'un trajet de 1300 à 1600 km, copieusement truffé de radars US Israël et guetté sans cesse du ciel par tout ce que compte l'US Air Force de P-8, de Gulfstream, de E-112, 3 pétroliers au large d'Abu Dhabi avant de se diriger droit sur le port de Mustafa, ses entreprises high-tech, ses firmes d'automobiles et ce super parking bourré de voitures de luxe genre Audi, Volkswagen, Porsche et enfin finir ce sacré boulot à l'aéroport international de Ben Zayed, non sans se souvenir un peu de l'aéroport de Dubaï et ce mardi, Israël a annoncé avoir testé avec succès ses Arrow 3. Le ministère israélien des Affaires militaires et l'Agence américaine de défense antimissile MDA ont mené avec succès un test d'interception planifié du système de défense antimissile Arrow 3 ou HETS 3. Et d'ajouter, le test mené par Israël Aerospace Industries en collaboration avec l'armée de l'air israélienne s'est déroulé dans le centre d'Israël. Au cours de l'essai, le réseau de radars du système Arrow a détecté la cible et a transféré les données au contrôle de gestion de combat BMC, qui a analysé les données, établi un plan de défense et lancé 2 intercepteurs Arrow 3 vers la cible exo-atmosphérique, détruisant avec succès son missile. Les 2 intercepteurs avaient 2 missions différentes avec 2 trajectoires de vol différentes pour abattre la même cible. Le système a été testé contre des cibles similaires au comportement des missiles avancés développés par l'Iran et de menaces futures auxquelles Israël pourrait être confronté comme un barrage de missiles balistiques contre le pays. Mis à part l'absence criante de preuves visuelles de ce supposé succès, ce test antibalistique Arrow 3 qu'Israël a médiatisé précipitamment en pensant sans doute trop fort à Ansar Allah, qui traitait jusqu'ici de mandataire, vient de prouver par drone puis missile qu'il est de loin la seule puissance balistique de la région ultra-stratégique de mer Rouge, une puissance diablement à craindre, car entre les deux opérations, Aramco 2019 et Abu Dhabi 2021, il n'y a que l'essaim de drones de commun et qu'en termes de capacité à hybrider drones à sens unique, drones de combat, missiles balistiques tactiques et missiles de croisière ailés, la résistance yéménite a tout réinventé en bouleversant carrément les règles en vigueur, renvoie à une criante de nature portuaire, voire insulaire, et comment s'interroge l'article. Le 7 et le 27 décembre dernier, le port stratégique de Latakia a été pris d'assaut par Israël dans un littéral excès de folie. Certes, il s'agissait d'abord et surtout d'une tentative destinée à discréditer la Russie et sa DCA, à faire comprendre à Moscou que sa présence durable en Méditerranée orientale pourrait lui coûter cher et qu'un de ces quatre, il se pourrait même que son Émeimem et sa Tartousse en fassent aussi les frais. Mais ce n'était pas, tout en frappant la Taquillée, en y infligeant d'énormes dégâts, l'ex-US Israël s'en est aussi pris, non pas à des cargaisons de missiles iraniens, mais à ce vaste corridor anti-sanctions US qui, parti du Golfe Persique, traverse la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, le canal de Suez, pour arriver sur la côte ouest syrienne. Quelques observateurs ont vu à travers ce coup de folie israélien l'écho désespéré de la cuisante défaite que fut pour l'axe pro-US la mise hors d'état de nuire d'Al-Tanf et de sa zone de 55 km après la frappe au drone du 20 octobre, n'empêche que cette double attaque anti-Latakia a étendu soudain la guerre à la mer. Abu Dhabi du 17 janvier, avec ses pétroliers en feu, ses colonnes de fumée s'élevant de toutes parts, ses ressortissants occidentaux faisant leurs valises, sa bourse en chute libre, le futur miroir du port d'Eliat, s'interroge toujours l'article. Depuis 48 heures, la presse israélienne ne cesse de le répéter, dans la mesure où le cocktail drone, missile qui, ayant quitté le Yémen, s'est abattu à Abu Dhabi, aura à faire exactement la même distance s'il décidait de s'abattre sur Eliat. Et ce ne sont pas ces rapports repris largement ce mercredi par les agences russes, comme quoi les terroristes pro-Erdogan à Idlib projetteraient de lancer des attaques terroristes à Latakia et à Tartousse, qui pourraient éloigner la perspective d'une attaque préventive ou d'une riposte syro-résistance contre Eliat. Ce serait d'autant plus terrifiante que la Russie de Poutine y apporterait sa contribution rien qu'à en juger les propos émis ce matin par le contre-amiral Oleg Zouravlov, directeur adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, qui a dit, selon les informations des autorités de sécurité syriennes, des groupes terroristes déployés dans la zone de désescalade d'Idlib planifient des attaques terroristes dans les ports de Tartous et de Latakia. Conformément à une décision prise conjointement par l'axe Damas-Moscou, des unités de la police militaire patrouillent dans le port maritime et dans le territoire adjacent de la ville de Latakia. Chers amis auditeurs, vous pouvez trouver l'intégralité de l'article sur notre site frenchpresstv.ir. Merci de votre écoute.